Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC, RMC Story, canal 23 pour Estelle Midi. On est ravis de vous retrouver tous les jours du lundi au vendredi de midi à 15h. On est ensemble pendant ces 3h en compagnie tout d'abord de Thibaut Texer. Salut Thibaut.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Thierry Moreau, l'inamovible, est là également. Salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
On est avec l'économiste Pierre Rondeau. Salut Pierre.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Et enfin le journaliste maison, Fred Hermel. Ça va Fred?
Oh, super bien. Bonjour Estelle, bonjour les amis.
Allez, au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, les violences qui flambent à Nantes et dans plusieurs grandes villes de France. Est-ce que vous vous sentez encore en sécurité dans les centres-villes? On attend bien sûr vos appels au 3216 et puis vos messages sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. Midi et demi, on parlera de ces étudiants en médecine envoyés un an dans les déserts médicaux à la fin de leurs études pour pallier le manque de soignants. Bonne ou mauvaise idée? À 13h, en pleine affaire, Julien Bayou, 69% des Français souhaitent plus de transparence dans le monde politique. Les hommes politiques ont-ils encore le droit à une vie privée? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi qui nous alertera. Stéphane, attention sur la hausse des frais bancaires. À 14h, deux retraités obligés de vivre dans un camping-car depuis plus de 2 ans car leur maison est occupée par des locataires qui ne veulent pas partir et qui ne payent plus leur loyer. Faut-il supprimer la trêve hivernale qui protège ces squatteurs tout l'hiver? Vous nous appelez bien sûr au 3216 et puis on terminera avec un super cadeau à gagner.
Et oui, la Coupe du Monde a déjà commencé sur RMC et nous avons décidé de vous envoyer au Qatar pour la Coupe du Monde afin d'assister au match Tunisie-France. Ce sera le 30 novembre prochain. Le transport, l'hébergement et vos places, bien évidemment, pour le match, tout est à nos frais. Vous allez aussi rencontrer l'équipe de RMC présente sur place. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant RMC au 7-32-16. RMC au 7-32-16. Le grand gagnant sera à l'antenne le vendredi 30 septembre.
Ou la grande gagnante.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite avec l'actualité du jour. Ce sont bien sûr les violences qui flambent à Nantes. Viols, agressions physiques et verbales. La situation se dégrade dangereusement dans cette ville pourtant réputée paisible ces dernières années. Et Nantes n'est pas la seule touchée par cette vague de violence, Thibaut.
Le viol d'une femme en pleine rue, puis l'agression d'un homme frappé par un Soudanais dans la cité des Ducs ont relancé le débat sur l'insécurité. Une ambiance pesante est dénoncée depuis plusieurs années par les habitants de la ville qui dénoncent une recrudescence des agressions dans le centre. Après une baisse en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, les chiffres de la délinquance repartent à la hausse à Nantes, selon le préfet de Loire-Atlantique. L'adjoint au maire de la ville reconnaît de son côté des difficultés dans la sécurité le soir, et ce en dépit du recrutement de plusieurs dizaines de policiers municipaux. Nantes n'est pas un cas isolé puisque Bordeaux, Lyon mais aussi Marseille connaissent également une hausse de la délinquance dans leur centre-ville. Selon le commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure, Christophe Rouget, qui sera notre invité dans quelques instants, 50% de la délinquance sur la voie publique est le fait de filières de migrants.
Alors, est-ce que vous vous sentez encore en sécurité dans les centres-villes? Je vais commencer avec vous, Thierry Moreau.
Ben, ça dépend où, très clairement.
Ben là, à Nantes, clairement.
À Nantes, ce qu'on constate, c'est une ville que je connais bien parce que j'avais pas mal d'amis et puis j'habitais pas très très loin, donc j'y allais souvent. On voit qu'aujourd'hui, la délinquance se déplace dans des endroits touristiques, là où il y a des restaurants, où il y a de la fréquentation, et non pas dans des banlieues glauques avec des petites rues mal éclairées. Donc ça, il y a un vrai phénomène. Aujourd'hui, je crois qu'on paye dans ces villes-là, que ce soit Nantes ou Paris, le dogmatisme de certaines municipalités qui, pendant des années, ont refusé les caméras de surveillance, ont refusé les polices municipales. La conversion, par exemple, d'Anne Hidalgo à la police municipale est extrêmement récente. Jean-Marc Ayrault a toujours refusé les caméras de surveillance et la police municipale. Donc, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a du retard. Et on voit que, par exemple, dans le cas qui nous occupe de la semaine dernière, les personnes suspectées de cette agression, puisqu'ils sont présumés innocents, ont été attrapés grâce aux caméras de surveillance. Oui. Donc il y a quand même une utilité de ces caméras, même si c'est pas la panacée.
Après, les agressions dont on parle, ce sont 4 Soudanais, par exemple, qui sont sur le territoire français en toute illégalité.
Tout à fait. Ça, c'est un autre sujet qui dirait
ben non, c'est
quand
pas
on est de façon illégale sur le territoire, on ne doit pas être sur le territoire français. Et ça, c'est un problème dont on parle ici de façon récurrente. Il ne faut pas que ces gens soient là, très clairement. Ils n'ont pas à être là, ils ne doivent pas être là. Donc, il y a aussi cet aspect-là.
Ben oui, en revanche, il y a beaucoup de réfugiés qui sont arrivés à Nantes ces derniers mois.
Tout à fait. Non, mais je ne conteste pas. Je dis simplement que...
Ils n'ont pas de travail, par exemple.
Ça s'accumule. Mais par exemple, on assiste aussi, les spécialistes expliquent que, par exemple, sur les trafics de drogue, il y a des transferts dans des très grandes villes vers des villes de moyenne importance. Parce qu'il y a du marché, parce qu'il y a moins de pression policière, etc. Donc il y a aussi ça. Il faut vraiment embrasser le problème dans tout son ensemble, ne pas légiférer sous la pression des faits divers, ça c'est aussi un truc très important. Je pense qu'il faut se donner le temps de réfléchir.
Bah, va dire ça aux Nantais, ils vont être ravis.
Non mais oui, mais on ne peut pas légiférer à la suite d'un fait divers. Je pense qu'il faut prendre les données sur sa longueur. Non mais je suis pour la sécurité. Je dis qu'on paye aujourd'hui le dogmatisme de ces municipalités qui n'ont pas voulu de police municipale. À Nantes, ça a progressé entre 2017 et 2021 de 17% la délinquance Loire-Atlantique, plus 29%, c'est énorme. Donc il faut faire quelque chose, mais on paye aujourd'hui un laxisme passé. C'est ça que je veux dire.
Alors Fred, vous avez vécu de très nombreuses années en Espagne. Vous êtes revenu en France l'année dernière. Est-ce que vous êtes frappé par le climat d'insécurité qui règne désormais dans plusieurs villes, de grandes villes de France, quoi. Je ne parle même pas de Paris. Hein.
J'ai dû réapprendre à vivre en France. J'ai dû réapprendre certains réflexes d'autoprotection que je n'avais pas en Espagne. Parce qu'en Espagne, Madrid, grande ville, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, j'ai jamais eu aucun problème. On a très très peu de problèmes.
T'as eu des problèmes à Paris ?
C'est-à-dire que je fais très attention à Paris, le sentiment d'insécurité.
Mais t'as pas eu de problème.
Enfin, il y a des choses que l'on voit, il y a des attitudes de gens. On sait très bien que il y a des personnes dans le tramway qui ont des attitudes franchement hostiles. Ou dans le métro, on intérêt à fermer sa gueule parce que sinon on s'en prend une. Donc ça, je ne le connaissais pas en Espagne. Donc je fais beaucoup plus attention en France que je le faisais en Espagne. Voilà, c'est quelque chose que.
T'as été agressé?
Tu voudrais que j'ai pris un
non mais j'ai pas envie
mais je vois ce qui se dit, je vois ce qui se passe. Je vois en Espagne ça commence à venir du côté de Barcelone avec les MENA, les mineurs non accomplagnés qui viennent du Maroc. Donc les Rambla,
c'est un autre sujet.
Voilà, c'est un autre sujet, mais voilà.
Mais toi tu parles que des caméras de vidéosurveillance, tu sais très bien qu'il y a pas ça, il y a pas que ça comme problème. Si tu parles aux Nantais, ils te disent c'est pas une histoire de caméra.
Non, les agressions sont du fait des nouvelles agressions aujourd'hui, notamment dans les lieux touristiques, sont du fait des mineurs non accompagnés, souvent drogués, et très très agressifs. Donc aujourd'hui en France, on a un énorme problème de sécurité. J'ai écouté avec attention ce que disait Thibault, 50% des dernières agressions sont liées aux migrants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des Français payent des impôts pour accueillir des gens qui doivent fuir leur pays. Et on paye des gens pour agresser des Français.
Non mais malheureusement, non mais Fred, tu peux pas dire ça.
Réalité.
Mais parce qu'on les accueille mal, on leur donne pas de boulot, on les laisse dans des situations.
D'accord. Ok.
Ben oui, si Fred, je suis désolée.
C'est notre faute.
Mais
non, on se fait agresser, c'est notre faute.
Non.
Génial.
Dès lors que tu donnes un titre de séjour de 10 ans à quelqu'un, au moins tu fais l'effort pour que cette personne elle puisse être logée dignement et avoir un travail. Sinon, qu'est-ce que t'en fais ? Tu la laisses sur la voie publique, tu lui files le RSA, il se passe quoi ?
Parce qu'on touche tout simplement le RSA, on doit devenir un délinquant, on doit violer une femme.
C'est pas ce que dit Estelle.
C'est-à-dire que c'est. Alors, excuse-moi, les Soudanais qui ont violé la dame à Nantes.
Ils auraient pas dû être là.
Non, mais déjà, d'accord. Non,
ils
avaient
un titre de séjour de 10 ans.
Ils sont en situation régulière. Donc, ils ont violé parce qu'ils n'ont pas été assez bien accueillis.
C'est pas ce que je te dis.
C'est-à-dire que comme t'as pas assez d'argent, tu violes des femmes.
Non, mais c'est pas ce que je te dis. Mais tu dois mieux. Si tu accueilles mieux, si tu permets aux gens de bien s'insérer, il n'arrive pas ce genre de choses. Bien sûr que c'est inadmissible, que c'est intolérable et que c'est horrible. Mais bien sûr,
ça va finir très mal, ça.
Mais regarde. Sans parler du viol, absolument, encore une fois, c'est sordide ce qui est arrivé. À Nantes, tous les gens en centre-ville se plaignent aussi de gens qui sont en déshérence, qui sont en état d'ivresse en permanence. En fait, c'est les gens qui n'ont rien.
Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Ça n'excuse pas. Quand on essaie d'excuser.
Ah non, c'est pas parce qu'on explique qu'on
excuse.
C'est une insulte pour les gens qui touchent le RSA.
C'est pas parce qu'on explique qu'on excuse.
Quand vous touchez le RSA, vous avez le droit de violer, de tuer. Non, mais je trouve
ça. C'est pas du tout ce qu'on dit.
C'est pas parce qu'on explique qu'on excuse. C'est pas vrai.
Pour une seule fois dans ta vie, s'il te plaît, Fred. Écoutez déjà ce que te dit Estelle et ce que te dit Thierry. Ils n'ont jamais dit ce que tu interprètes, premier élément. Et aussi, arrêtez, s'il te plaît, arrêtez de caricaturer pour tomber dans une espèce de populisme dégoulinant à stigmatiser, comme tu l'as fait parce que tu viens de le faire, à stigmatiser ces personnes sans papier, ces mineurs non accompagnés sans papier, qui sont bien évidemment dans une précarité absolue. Et ce n'est pas leur pardonner. Ou expliquer, justifier cette situation, mais c'est simplement constater. Je constate qu'il y a mécaniquement et indubitablement un abandon total des pouvoirs publics et de l'État sur ces mineurs non accompagnés, sur ces jeunes en déshérence qui vivent dans une
même
immense
majeurs,
et grande précarité. Et même des majeurs.
17, 27 et 40 ans, les trois violeurs
de l'Ordre. Hein. Et d'ailleurs, la justice, à ce sujet-là, lorsqu'il s'agit de majeurs, mais de 18, 19 ans, parle encore dans les termes de mineurs. Parce que, effectivement, à 18 ans, c'est pas du jour au lendemain, t'es mature, tu vis ta vie et tu peux pleinement, en toute indépendance, continuer à faire ce que tu fais sans avoir l'excuse de la minorité. Il est indéniable, et ça, Thierry l'a dit, Estelle l'a dit, tout le monde l'a dit, il est indéniable que la violence augmente. Maintenant, dire que c'est la faute des étrangers, comme tu l'as dit,
c'est pas
des
moi, sous-années. C'est Thibault, 50%. C'est pas moi. Non, c'est pas un moi. Chiffre qu'a donné Thibault.
C'est pas moi. Attendez, c'est un attendez, chiffre qui a été donné par notre invité qui sera tout à l'heure, Christophe Rouget.
Voilà. Et ce chiffre-là, effectivement.
Qui est commandant de police. Hein,
ce n'est pas simplement mettre des étiquettes sur dire l'étranger. Et j'ai envie de le dire parce que je suis sûr qu'au fond de toi, tu y as pensé. Le musulman et le violeur de femmes.
Personne n'a dit ça. Non, mais là, tu caricatures. Okay.
C'est terrible. On ne peut plus. On ne peut pas parler de ce sujet en s'attaquant aux fascistes. Et je n'ai pas dit les étrangers.
J'ai cité simplement
le chiffre des migrants. 50% des.
Pierre, tu es obligé de dire qu'aujourd'hui, il y a un problème avec certains réfugiés. Tu ne peux pas dire l'inverse.
On vient de le répéter et je vais dans ton sens. Bien évidemment, oui, c'est vrai. C'est une réalité. 50%. Mais expliquer, ce n'est pas pardonner.
C'est très grave ce que tu as dit sur moi, expliquer. Tu t'es passé pour un raciste et je te demande de retirer.
En tout cas, si tu veux, je le retire. Mais quand tu as stigmatisé les Soudanais en disant que les Soudanais, comme si c'était un peuple, tu as dit des Soudanais.
Les Soudanais, je parle des trois qui ont violé la dame.
Eh bien oui, mais pourquoi tu as précisé les Soudanais?
Parce que ils sont deux, et là les deux agressions dont parle Thibault, il se trouve que c'est deux Soudanais sur le viol et il se trouve que c'est un
Encore
Soudanais
fois,
sur l'homme qui a crié à la Wagbar.
Le débat porté sur le sentiment d'insécurité, on pourrait y revenir, mais en tout cas il y a dérivé sur la question de l'immigration et des migrants en France qui peuvent être cause d'incivilité. C'est indéniable et c'est démontré par tous les chiffres.
Bah oui.
Je ne le remets pas en cause, mais en tout ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que expliquer n'est pas pardonner. Constater, c'est effectivement constater qu'il y a aussi de la part des forces de l'ordre, de la part de l'État, de la part des services sociaux, de la part des services publics, un abandon total pour ces jeunes et une défaillance totale. Ensuite, si on se mettait à corriger justement, pas automatiquement à verser le RSA, mais en tout cas les soutenir. Un exemple, et après je m'arrêterai là, mais un exemple.
Rapide.
On parle des craqueux, en tout cas des gens qui consomment du crack à Paris, à Port-de-la-Chapelle. Pas qu'à Paris d'ailleurs, c'est vrai. Mais moi je pense à Paris parce que je suis parisien. Si on, au contraire, au lieu de les réprimander, de faire la répression, de les stigmatiser et de les abandonner, ou même de mettre des murs entre la banlieue et Paris pour éviter à ce qu'ils viennent, on mettait en place des centres d'accueil, des centres de crack, ce que ne veulent pas les habitants de justement, mais des centres de crack pour les accueillir, les soigner et lutter contre les trafics. Là, on parlait de Soudanais, mais maintenant je vais parler par exemple de la mafia sénégalaise. La mafia sénégalaise est à l'origine de ces trafics de crack. Si vraiment il y avait à la fois de la répression qu'il faut avoir et de la prévention, on corrigerait les choses. Mais c'est pas juste point la faute des étrangers.
Mais sauf que le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut effectivement de la prévention, etc. Mais personne ne veut avoir un centre de craqueux en bas de chez lui. Voilà.
Ce
et ça, c'est
normal,
la vérité.
Humainement, ce qui est normal.
Être le plus tolérant au monde.
Ce qui est normal, mais il faut faire un effort de pédagogie.
Et personne ne veut
l'avoir
à côté de chez lui. C'est comme ça. Et c'est bien ça le problème. On est avec Océane qui nous appelle de Nantes, tiens, justement, qui est enseignante. Bonjour, Océane.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous, Océane, dans Estelle Midi. On parle de l'insécurité, justement, qui règne depuis quelques mois à Nantes. Est-ce que vous la ressentez, vous aussi, cette insécurité?
Alors, bah oui, je la ressens plus que jamais. Alors, moi, je suis partie vivre en Amérique latine pendant quelques temps et je suis revenue en février dernier. Et effectivement, bah, voilà, j'ai vécu en Argentine, au Costa Rica. Mm-hmm. Et là-bas, j'ai pu vivre vraiment une insécurité, des agressions et j'ai mis, en fait, en place des comportements. À ma rentrée en France, j'ai malheureusement compris que je devais maintenir pour maintenir ma sécurité sur la voie publique et pouvoir
profiter
quand même d'une vie. Par exemple, quand on sort avec mes amis, on sort toujours évidemment à quatre. On rentre jamais seul, on rentre toujours en Uber, on réduit au maximum nos mouvements. Donc, comment vous dire qu'au niveau du pouvoir d'achat, dès qu'on veut sortir, voilà, il y a au moins un billet de 30 euros qui part juste dans les transports pour pouvoir rentrer en vie.
Mais c'est grave ce que vous dites. En fait, ça veut dire que quand vous sortez, typiquement, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez déjà été agressée, Océane ?
Oui, j'ai déjà été agressée avec un couteau dans le tramway à Nantes en plein jour. Et voilà, puis il y a évidemment personne n'a bougé. Ça a été plutôt traumatisant, mais il y a deux choses qu'il faut dire. Une première chose, je trouve ça affligeant que les associations féministes de Nantes n'ont rien publié, n'ont rien dit suite à ce viol à Nantes. Mais aussi, je trouve que c'est très grave. Il faut s'éloigner au maximum de la stigmatisation d'une frange de la population, comme je trouve aussi l'a fait Fred tout au long de son intervention, puisque on cache complètement toutes les autres insécurités, comme par exemple les frotteurs, les agressions dans les boîtes de nuit, où là on efface complètement le français blanc qui est complètement actif et qui participe à cette insécurité permanente.
Voilà, c'est pas qu'un problème de réfugiés, évidemment, c'est une insécurité qui touche tout le monde là, c'est ça que vous voulez dire.
Oui.
Ben merci beaucoup Océane pour ce témoignage, en tout cas Océane qui est enseignante à Nantes. On est avec Christophe Rouget, il est commandant de police, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure SCSI CFDT, ça fait beaucoup de lettres. Bonjour Christophe Rouget.
Bonjour.
On parle de l'insécurité du côté de Nantes. Pour vous, en tant que commandant de police, elle est due à quoi cette insécurité? Parce que enfin moi je suis très très souvent allée à Nantes, il y a quelques années c'était vraiment la ville paisible. On était hyper en sécurité, on pouvait sortir le soir, enfin, il n'y avait aucun souci à Nantes. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, c'est partie de ces villes, Nantes, qui ont connu une forte croissance démographique avec des apports de population nombreux. Alors, vous aviez peut-être dans certains quartiers, depuis toujours, il y a des problèmes à Nantes, dans certains quartiers, dans des banlieues difficiles, donc, que nous connaissons. Mais nous avons des phénomènes nouveaux sur les centres-villes qui sont des arrivées, justement, de personnes de pays étrangers, et notamment des mineurs isolés, vous en avez parlé tout à l'heure, qui se retrouvent dans ces centres-villes, désœuvrés, parce qu'on ne sait pas bien les accueillir, vous l'avez dit aussi, vous avez raison, et que du coup, on n'a pas une politique par rapport à eux, et qu'ensuite, on a des pays qui, lorsqu'ils commettent des délits, ne veulent pas les récupérer. Donc, on se retrouve avec des populations comme ça, qui errent dans les centres-villes, qui consomment de l'alcool, qui consomment des stupéfiants et qui commettent de nombreux délits. Et donc, effectivement, dans certaines villes, on arrive à plus de 50% des délits de voie publique, les vols, les vols avec violence, les agressions sexuelles, tout ce qui embête nos concitoyens. Et moi, je suis, quand j'entends Océane parler de ses comportements de défense et tout ça, c'est dramatique, mais on l'a parfois pour nos enfants. Donc, on est attentif à cela. Et il faut vraiment qu'on apporte des solutions. Il ne faut stigmatiser personne. Il faut qu'on arrive à trouver les bonnes solutions. Il ne faut pas être dans le déni ni dans la caricature. Il faut être dans la réalité, savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on a effectivement 25% uniquement des étrangers qui ont commis des délits qui sont renvoyés dans leur pays. Ça veut dire qu'il y a 75% qui ne sont pas renvoyés. C'est Gérard Darmanin qui l'a dit cet été. Et sur les mineurs isolés, on voit bien qu'on a des pays comme le Maroc.
On n'arrive pas à les renvoyer.
Par moment, on arrive à les renvoyer. Puis par moment, par pression diplomatique, on n'arrive plus à les renvoyer. Et ça, c'est dramatique parce que c'est une source de confrontation entre nos pays et ces pays-là. Mais seulement, c'est les Français au quotidien qui sont victimes de ça.
Mais j'ai envie de vous demander, Christophe Rouget, que fait la police à Nantes? Parce que on se dit aussi que s'il y avait plus de policiers en centre-ville, bah, il y aurait certainement moins d'exactions, quoi.
Mais vous savez, regardez, les policiers sur cette affaire, malheureusement, ils sont intervenus en flagrant délit pour mettre fin au calvaire que subissait cette dame. Ils ont interpellé les individus. Mais j'étais au mois de juin, moi, à Nantes, ils me disaient, mais le problème, c'est qu'on intervient, on fait des procédures. Mais une fois que vous avez fait une procédure contre ces mineurs isolés, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec un problème qui est constant en France et où les pouvoirs publics, depuis des années, n'ont pas trouvé de solution. C'est tous ces gens qui font tout un tas d'infractions, multirécidivistes, réitérants en fait. Et vous avez les Français qui se disent, mais c'est pas possible. Ce gars, il a 20 condamnations à son casier et il est encore dehors.
C'est inexplicable. C'est sûr, pour la population, c'est incompréhensible, quoi.
Tout à fait. Et il faut qu'on arrive vraiment, et police et justice, avec un pouvoir politique qui se mettent autour de la table, qui disent, qu'est-ce qu'on va faire pour ces personnes-là? Nous, on parle souvent de 5% qui font des problèmes permanents à la population. Qu'est-ce qu'on va faire contre ces multirécidivistes pour éviter qui viennent gangréner ces centres-villes, mais aussi ces banlieues au quotidien. Voilà.
C'est ça, c'est une minorité qui pourrit la vie d'une majorité. Vous avez plein de messages, hein,
vous sur l'application RMC. Oui, vous êtes très nombreux à réagir. Il y a Mathieu notamment qui nous dit pas de justice immédiate, pas de sanctions dissuasives, pas de réparation de la part des responsables. Et c'est la France, c'est l'État qui est responsable de la situation. Et puis, il y a aussi Gwen qui nous écrit. Elle nous dit qu'elle vit à Nantes, elle est handicapée et elle n'a pas de problème. On ne tombe pas dans des coupes-gorges. Je crois que le problème, c'est surtout et maintenant qu'on est au courant du moindre fait divers et que ça nous angoisse, c'est ce qu'elle dit en tout cas.
Et c'est vrai qu'on en parle effectivement beaucoup dans les médias, mais en tout cas, les chiffres aussi montrent que Nantes, la situation au niveau de la sécurité à Nantes est en train quand même de se dégrader. On est avec Momo, qui est chauffeur de taxi à Nantes, justement. Bonjour Momo.
Bonjour toute l'équipe.
Et merci d'être avec nous, Momo, dans Estelle Midi. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui à Nantes?
Ah oui, dans l'insécurité, ça c'est sûr. Et ça, depuis ces 8 dernières années, c'est catégorique. C'est vraiment catastrophique.
Mais ça veut dire quoi? Parce que vous êtes chauffeur de taxi. C'est quoi les incivilités ou les violences auxquelles vous avez assisté?
Alors beaucoup, hein, c'est beaucoup des clandestins, des migrants qui sont rassurés, enfin qui ont pris assurance, je dirais, au centre-ville. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un manque de présence policière. Et c'est ça le souci ici à Nantes. Il y a un manque de présence policière. Et si seulement on aurait eu un effectif, je dirais, proportionnellement à au nombre d'habitants ici à Nantes, je pense qu'on aurait un résultat qui serait autre. Aujourd'hui, on ne voit très peu la police. Malheureusement, ils sont sous-effectifs, on comprend. Le soir, à 19h, 20h, vous ne trouverez plus de police municipale. Ils ont terminé leurs horaires. Le samedi, dimanche, selon les manifestations, peut-être qu'on le verra. C'est ça le problème. Le gros problème qu'il y a ici sur Nantes, c'est la présence policière.
Oui, mais apparemment, ils sont en sous-effectif. Et Christophe Rouget, notre invité sur ce débat, il le dit bien. Il dit que de toute façon, même s'il y a des policiers, le problème, c'est qu'ils les arrêtent. Et puis que 5 minutes après, les mômes, ils sont de retour en centre-ville et qu'on ne peut malheureusement rien faire. Christophe Rouget, il est édifiant le témoignage de Momo quand même. Voilà, il aimerait plus de police. On fait quoi dans cette situation?
Il a raison, les Français ont dit plus de police. Alors ça dépend pas, il l'a dit aussi, uniquement de la police nationale, mais aussi il faut qu'il y ait des élus locaux qui prennent en compte ces problèmes de sécurité. Oui. Parfois on a des villes où on a des élus locaux qui ne le prennent pas en compte, donc ça c'est quand même un phénomène qui est important. Donc la police nationale, il y a eu des renforts récemment qui sont arrivés sur Nantes, mais l'objectif du président de la République, c'est de doubler la présence de la voie sur la voie publique, qui est très intéressant. Et moi je dis au ministre de l'Intérieur, je dis au président de la République, vous n'y arriverez pas si vous n'allégez pas la procédure pénale. Parce que quand vous mettez des policiers, vous l'avez vu à la Guillotière, par exemple, l'autre fois, vous mettez des CRS, ils font des contrôles, ils font des interpellations, il faut des gens derrière qui fassent des enquêtes, et ensuite des gens qui puissent les juger. Si vous ne mettez que des gens sur la voie publique, vous n'y arrivez pas. Parce qu'aujourd'hui, le temps qui est destiné aux enquêtes, il fait que vous avez un maximum d'effectifs, et Momo a raison. Du coup, comme vous avez tous ces gens qui font ces enquêtes, qui sont de la paperasse pour rien, souvent, on se retrouve avec des gens qui sont dans des bureaux et pas sur la voie publique. Donc si on ne change pas le code de procédure pénale, si on n'allège pas la procédure pénale, on va droit dans le mur, on n'arrivera pas à mettre plus de policiers sur la voie publique.
Ben merci beaucoup en tout cas Christophe Rouget d'avoir été avec nous sur ce débat. Merci à Océane et Momo qui ont témoigné dans Estelle Midi. On vous a posé la question en tout cas sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que vous vous sentez encore en sécurité dans nos centres-villes? Ça donne quoi Thibault?
Résultat sans appel, vous êtes 81% à penser que non, nous ne sommes plus en sécurité dans nos centres-villes contre 19%.
Allez, dans un instant, on parle de l'idée du gouvernement qui voudrait envoyer des étudiants en médecine générale étudier pendant un an dans des déserts médicaux. Bonne ou mauvaise idée? On vous attend bien sûr au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi et demi, on est de retour hein, sur RMC, RMC Story, Canal 23 dans Estelle Midi avec Thibaut Texer, Thierry Moreau, Pierre Rondeau et Fred Hermel avec vous bien sûr au 32-16 pour réagir à l'idée du jour. C'est l'idée du gouvernement qui souhaite envoyer des étudiants en médecine générale exercer pendant un an dans les déserts médicaux à la fin de leurs études. L'idée est de pallier le manque de soignants, mais ça ne passe pas du tout du côté des étudiants, Thibaut.
Non, puisqu'il faudra désormais 10 ans aux étudiants en médecine pour rentrer dans le métier. C'est la durée de l'internat qui serait allongé, passant de 3 à 4 ans, mesure présentée hier en Conseil des ministres, incluse dans le projet de loi financement de la sécurité sociale qui sera examiné à l'Assemblée nationale le mois prochain. Une année supplémentaire réalisée en ambulatoire dans les territoires les moins pourvus en médecins généralistes, autrement dit dans les zones de déserts médicaux. Si le gouvernement souhaite mettre en place ce dispositif à la rentrée prochaine, la fronde gronde, les internes en médecine envisage une mobilisation massive dans les mois à venir. On veut forcer les jeunes à aller combler des années de mauvaise gestion du système de santé, explique la présidente de l'intersyndicale nationale des internes. À ce jour, 30% des Français vivent dans un désert médical et la situation ne devrait pas s'arranger puisque le nombre de généralistes recule d'année en année et devrait même continuer à baisser jusqu'en 2024 selon les prévisions.
Alors, on voit des étudiants en médecine générale exercer pendant un an à la fin de leurs études dans les déserts médicaux. Bonne ou mauvaise idée, Fred Hermel?
Excellente idée du gouvernement, bien entendu. Ah. Parce que c'est très bon pour le pays, c'est très bon pour les Français, et c'est très bon pour les propres étudiants, pour les propres internes. Pour le pays, pour une raison très simple, c'est que les études de médecine sont longues, coûtent cher à la société.
Ça rapporte 200 000 euros à l'État par étudiant.
Oui, il y a un investissement. Il y a un investissement.
Oui, bah donc ne dis pas que ça coûte de l'argent à l'État, parce que c'est pas vrai.
Les études sont gratuites, parce que nous sommes dans un système universitaire.
Elles ne sont pas gratuites, mais passons. Mais...
Par rapport à ailleurs, essayer de faire des études
c'est
de médecine aux États-Unis. Mais voilà, en France, on peut faire des études, n'importe qui peut faire des études, donc des études de médecine. Les Français investissent dans des étudiants qui vont leur servir, et c'est très bien. Donc je trouve que c'est un retour d'ascenseur tout à fait logique. Et en plus, cette année de formation en plus, qui est vraiment la fin de l'internat, peut-être dans les campagnes, permettra à ces jeunes de découvrir d'autres populations que celles qu'ils fréquentent d'habitude. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on n'est pas médecin de campagne comme on est médecin en ville. Donc c'est un complément de formation pendant un an.
Ils ont fait 10 ans d'études et ils ont envie d'être médecin en ville. Et toi, tu les envoies là où ils n'ont pas envie d'être.
Mais en étant médecin en ville, mais attends, ils ne vont pas passer 10 ans, ils vont passer un an. C'est une formation.
Un an, alors qu'ils ont peut-être une famille. Et tu sais combien c'est payé, l'internat? Aujourd'hui, un interne, donc j'ai regardé, enfin, aujourd'hui, en sixième année de médecine, tu gagnes 380 euros mensuels. Brut, pour 100 euros. Oui, tu gagnes 3,80 euros de l'heure.
Mais
quand
il est bien évident que dans le système, il n'a pas été complété pour l'instant. L'accueil est assuré dans les villages. Je sais par exemple, j'avais fait une chronique l'an dernier là-dessus, sur toutes ces petites villes, ces petits villages, qui payent un salaire la mairie décide de payer un salaire, donne un logement, etc.
Mais là, ce sera pas le cas.
Pour que les médecins viennent s'installer. Donc ils seront longés. Donc moi, je ne vois pas comment on peut s'offusquer d'un an, quand l'État vous offre un an d'études supplémentaires.
Mais on te les offre. Mais c'est parce que normalement, ils devraient exercer et donc gagner leur vie. Ils ont fini leurs études et tu les envoies.
On a le droit de changer les règles pour les qui soient encore meilleurs, qu'ils connaissent encore. Excuse-moi.
Toi, Fred, si à 30 ans, on t'avait envoyé, je veux dire, en tant que journaliste, faire ton métier pendant un an dans un endroit que tu n'as pas choisi, et pour gagner 10 fois moins que ce que tu devrais gagner normalement, t'aurais dit oui, peut-être.
Un an. Moi, je suis ravi. J'étais boursier, j'ai pas payé mes études. Ça me paraissait un revoi d'ascenseur tout à fait normal. Moi, je trouve que cette mesure, elle est très bonne.
Si je peux me permettre sur cette mesure en interne, nous sommes d'accord que c'est pas pour venir pallier au manque de médecins dans les campagnes. Ils vont pas récupérer un cabinet d'un médecin généraliste et donc en tant qu'interne, en tant qu'étudiant, remplacer un médecin titulaire. Ils vont simplement être internes dans des centres de santé qui ont en manque, qui sont en manque d'effectifs, mais ils vont pas aller dans les campagnes pallier à l'absence d'un médecin généraliste pour soigner 1000, 2000, 3000 patients.
Non, donc ils vont être payés comme des internes alors qu'ils pourraient être payés comme des médecins.
Donc précision sur cette mesure, c'est pas aller jusqu'à carrément demander ou imposer à ce que les internes et les nouveaux, les néo-médecins aillent dans les campagnes et aillent remplacer les médecins généralistes ou l'absence de médecins généralistes. Ils vont simplement aller dans les centres hospitaliers.
Mais de facto, ça va se passer comme ça.
Mais alors, justement, pour avoir interrogé, parce que là, pour une fois, je n'ai pas vous citer une étude, je vais directement vous citer des témoignages, parce que pas plus tard que ce week-end, j'en discutais avec des étudiants, justement, en médecine et des néo-médecins sur cette mesure d'aller un an d'avoir un an supplémentaire et d'aller dans ces déserts médicaux. Ils étaient tous contre. Parce que, bien évidemment, je rejoins vos arguments, de dire qu'on a passé 10 ans de notre vie, on a 30 ans à consacrer, justement, ces années d'études et de labeur en médecine qui sont des années d'études très difficiles et très compliquées, qui rapportent en plus de l'argent. Ils ont 30 ans, ils commencent à construire leur vie, leur vie de famille, leur vie privée, et on devrait leur imposer d'aller dans des déserts médicaux.
C'est volontariat. C'est du volontariat.
Alors, pour l'instant, c'est du volontariat.
C'est le début d'une imposition.
Comme c'est du volontariat et que tu poses la question directement aux néo-médecins ou aux internes qui sont tous contre, sur cette base du volontariat, on aura peu de résultats. Donc peut-être qu'à terme, pour pallier justement à ces déserts médicaux,
on va obliger avec Paris, mais si dans.
Oui, peut-être. Après, on pourrait aussi revenir sur la question. On pourrait aussi revenir au niveau de la question de la formation des médecins, des étudiants en médecine. Le numéro exclusus a été supprimé, en tout cas a été
augmenté. Non, il est encore là, en fait. Ça n'a absolument rien changé. Non, mais oui, mais ça n'a rien changé. Enfin, il y a encore un numéro exclusus.
Passé, il y a aussi, si je me trompe pas, si j'ai pas de bêtises.
Ils l'ont augmenté, mais il y a encore un numéro exclusus.
Une épreuve de culture générale qui n'a rien à voir avec la médecine et qui est éliminatoire. Donc, qui, de fait, retire des étudiants brillants qui n'auraient pas cette culture générale pour devenir médecin. Donc, il y a aussi des choses à réfléchir et à pallier pour les déserts médicaux. Mais la simple question des internes dans les déserts médicaux, eux-mêmes sont contre. Donc ça m'étonnerait que ça fasse effet.
Thierry, j'ai l'impression que pour vous, c'est une bonne idée en tout cas.
Je suis pas contre. D'abord parce que c'est du volontariat. Alors moi, je veux bien qu'on présume que si ça fonctionne pas, on va le rendre obligatoire. Mais pour l'instant, c'est du volontariat. Première chose. Deuxième chose, faut rappeler à nos auditeurs que les étudiants en médecine, pour une spécialité, il y a 4 à 6 ans d'internat. Mmh. Et en médecine générale, il y a que 3 ans. Ajouter une quatrième année pour se former à des spécificités de la médecine rurale que sont la gérontologie, etc. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. En revanche, ça doit s'accompagner, et là je suis complètement d'accord avec tout, avec vous, d'une revalorisation salariale, d'une revalorisation des carrières, d'une nouvelle gestion du temps de travail, parce que 70 heures par semaine pour les médecins de campagne, c'est pas possible. En revanche, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'ai entendu un président d'étudiants, syndicat d'étudiants en médecine qui dit on va dégoûter les jeunes médecins en les mettant dans un désert médicaux. Depuis quand c'est dégoûtant d'aller dans la Creuse? Depuis quand c'est dégoûtant d'aller dans le Massif central?
C'est ça le problème. Choisi.
Et je vais vous dire une chose, je vais rajouter une chose. Pourquoi l'agriculteur de la Creuse, qui a financé via ses impôts pendant 10 ans les études d'un médecin, pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir un médecin pas trop loin de chez lui? Moi, je pose la question.
Les études de médecine, ça rapporte à l'État. Parce que le fait de payer des internes 2 euros de l'heure, je peux te dire qu'au final, vu qu'ils
font
70 heures
par semaine... Je ne me place pas au niveau de l'État, j'ai bien entendu votre argument économique. Formidable.
Voilà, mais c'est une
je me place du point de vue de l'agriculteur de la Creuse qui a payé pendant 10 ans les études d'un médecin et qui se retrouve dans un désert médical.
Il y a le libre. En fait, aujourd'hui, quand tu veux devenir médecin, il y a la libre installation.
On est d'accord.
Devenir généraliste, ça fait partie, je veux dire, des avantages entre guillemets du métier.
Et je suis le premier à garantir ça. Et je pense qu'il faut des incitations et pas d'obligations.
Mais si ça se trouve, ces étudiants, ils seraient ravis d'aller dans les déserts médicaux, mais qu'on leur rajoute pas une année d'internat, parce qu'effectivement, si je te dis n'importe quoi, si en fait ils peuvent devenir médecin et gagner 6000 euros par mois et faire leur métier et que tout d'un coup on leur dit on va vous rajouter une année d'internat et vous serez payé que 1500 euros et vous ne serez pas médecin et les mômes et c'est normal ils te disent en fait j'ai pas envie donc au lieu d'être généraliste et je fais autre chose.
Je vous ai dit qu'il fallait une revalorisation.
On a oublié quelque chose.
En plus ça permet une chose, c'est qu'en allant sur le terrain avec un médecin tuteur, parce que c'est ça le dispositif.
Mais ils vont déjà sur le terrain, l'internat ça sert à ça.
Est-ce que je peux terminer? Quand on va les envoyer avec un médecin tuteur, ça va leur permettre par exemple d'appréhender une patientèle. Et peut-être, quand le médecin prendra sa retraite, parce qu'il va partir, on a un problème de départ en retraite, ils récupéreront une patientèle.
Si c'est un choix.
Encore une fois, je suis pour le volontariat, pas pour l'obligation.
D'où la question de l'incitation.
Si c'est un choix, oui,
il faut revaloriser les salaires. Oui. Je suis d'accord avec vous.
Voilà, tu as parfaitement passé la balle, Thierry. Parce que c'est ça, parce que des gens qui après se disent « Ah non, elle est en campagne, etc. »
C'est dégoûtant.
Après avoir passé un an, eh ben peut-être qu'ils vont découvrir une passion pour la médecine rurale qui est
une qualité de vie,
etc. Puisque tout le monde quitte Paris, il paraît que tout le monde quitte les grandes villes. Donc tout le monde doit être en télétravail parce qu'on veut plus vivre dans les grandes villes. Donc ça peut être une magnifique occasion. Et puis excusez-moi, je ne suis pas médecin.
Mais vous croyez que tous les médecins sont parisiens en fait, que tous les étudiants en médecine sont parisiens? C'est une idée des étudiants en médecine qui est hallucinante. Il y a des étudiants en médecine qui sont il y a des facs en province, vous savez, ça existe aussi.
Pourquoi il y en a beaucoup à Nice? Pourquoi il y en a beaucoup en région parisienne, dans certains quartiers de la région parisienne?
Les étudiants à Paris, c'est sûr qu'à Limoges,
Et à Nice aussi, par exemple. Peut-être que je ne connais pas assez la médecine, etc. Mais moi, je pensais que quand on voulait devenir médecin, c'est parce qu'on avait une vocation de soigner tout le monde.
Mais quel rapport?
Tout le monde, c'est aussi d'aller soigner dans les campagnes. Je pensais que c'était pas pour l'argent qu'on devenait médecin. Je pensais que c'était une vocation.
Mais quel rapport? Si c'est dans le cadre de tes études, mais si on te rajoute une année d'études.
Mais je ne vois pas comment on peut refuser d'être mieux formé. Ça, je ne comprends pas.
Oui, mais dans ces cas-là, mais qu'ils fassent 5 années de plus, alors.
On pourrait faire 15 ans, même pour spécialiser.
Spécialistes jusqu'à 6 ans.
Dans cette obligation, justement, dans ce rajout d'une année supplémentaire de formation, qui c'est vrai, tu as raison, c'est bien d'avoir une meilleure formation, mais qu'il y ait une incitation. Pas être payé 380 euros pour
C'est ce que j'ai dit.
On est d'accord. Déjà, ils sont obligés.
Mais si tu veux qu'un président syndicat et étudiant dise on va dégoûter les jeunes médecins en les envoyant dans les déserts. C'est scandaleux. Quoi la province est dégoûtante? Moi j'en suis de la province.
Mais qui te dit que la province est dégoûtant?
On va dégoûter les jeunes médecins en les envoyant dans les déserts médicaux.
Parce que tu leur fais une année d'études supplémentaires. Parce que si c'est dans le cadre de leurs études, il n'y a pas de problème. c'est pas la Provence le problème, c'est le fait de te rajouter un an d'études.
J'aimerais bien.
Ouais. Et puis si les médecins pensent qu'ils vont vite gagner beaucoup d'argent, c'est aussi parce qu'on a un système magnifique qui s'appelle la sécurité sociale. Qu'ils aillent ailleurs voir un petit peu.
Alors tiens, justement. C'était
uniquement avec des conventions privées.
Ok. On a Jeff qui vient juste de terminer ses études de médecine, justement, qui nous appelle de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Jeff.
Oui, bonjour.
Bonjour Jeff.
Alors merci d'être avec nous. C'est un peu enflammé sur le plateau. On n'est pas tous du même avis. Jeff, justement, vous venez de terminer vos études. Est-ce que vous auriez souhaité aller dans un désert médical un an à la fin de vos études?
Alors, il y a plusieurs réponses à donner. La réponse est clairement, elle est non. Pour une simple et bonne raison, c'est que notre internat, déjà, on nous envoie très souvent dans des hôpitaux ou des endroits périphériques. Moi, je vous parle de ça, je suis spécialiste, donc je n'ai pas forcément été concerné par un internat de médecine générale, mais pendant mon internat de spécialité, j'ai travaillé déjà dans des régions qui étaient appauvries en termes de médecins, et on nous a déjà donné l'opportunité de travailler dans ces régions-là. Ce qu'il faut savoir, et ce que tout le monde dit déjà, c'est que les déserts médicaux, c'est bien gentil comme mot, mais ce sont surtout des déserts de tout. Il n'y a rien. Il y a pas de cinéma, il y a pas de crèche, il y a pas d'école, il se passe rien du tout. Donc on est toujours en train de remettre la balle sur le dos des médecins, comme quoi il faut qu'ils se sacrifient pour faire ça. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Le problème, il est bien plus profond que ça. C'est pas simplement les médecins. En plus de ça, moi je voulais surtout réagir sur ce que dit Fred. Alors pour le coup, je l'écoute beaucoup sur le foot et je suis très souvent d'accord avec ses analyses, mais alors là, absolument pas.
Vous voulez dire qu'il est meilleur sur le foot que sur la médecine?
Ah,
je suis assez d'accord.
Pas, il ne sait pas du tout de quoi il parle, évidemment. Faire une année de plus d'internat, soi-disant, pour devenir des meilleurs médecins, déjà, c'est complètement faux, parce que c'est pas parce qu'on va travailler dans un bled qu'on va être des meilleurs médecins. Au contraire.
Ah bah, l'expérience, ça sert à rien, l'expérience, Jeff.
Mais dans ces cas-là, donne-leur 10 ans d'études, payer une misère.
Alors, un an de contact avec les gens,
si je peux me permettre, l'analyse que vous avez faite sur le salaire, elle n'est pas bonne. C'est que, en fait, vous avez parlé du salaire d'externe en sixième année, qui est de l'ordre de 300 euros. Quand on est interne, heureusement, on est payé un petit peu mieux.
Oui, c'est 2139 euros bruts en troisième année d'internat.
C'est pas 300 euros, vous nous avez menti.
Non, je t'ai parlé de 380 euros à la fin de la sixième année de médecine.
Voilà, de médecine. Mais en ce qui concerne la surspécialisation et l'expérience, évidemment que l'expérience, c'est quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un jeune médecin qui, donc, n'a aucune expérience. Et on nous a appris quoi à la fac? On nous a appris à prescrire des scanners, des IRM, à faire des coronarographies, des coloscopies et autres tests. Qu'est-ce qui va se passer dans le désert médical? On va voir des patients, on va leur dire, bah ouais, effectivement, faut faire ça. Mais sauf qu'on n'aura aucun réseau et aucune possibilité sur la plateforme pour pouvoir leur proposer une prise en charge adéquate. Donc finalement, on va se retrouver en échec. Les patients vont se retrouver en échec.
Vous aurez un tuteur quand même, si ça passe. Vous ne serez pas livré à vous-même.
Tuteur, mais le tuteur, il va être dans la même difficulté que la nôtre, évidemment.
Mais ça, c'est un autre sujet.
Le tuteur, il connaît sa patientèle.
Mais oui.
Et il connaît le réseau, comme vous dites.
Mais bien sûr, mais quand on a besoin d'avoir des examens, la difficulté est toujours la même. Donc augmenter le temps d'internat qui effectivement est déjà mal payé pour des internes en fin de formation qui sont effectivement bientôt des trentenaires et qui ont des vies de famille, enfin, à mon avis, c'est pas du tout une bonne solution.
Excusez-moi Jeff, vous parlez tout à l'heure des déserts médicaux où il n'y a rien. Moi je peux vous dire que je suis en banlieue parisienne où je n'ai pas pu avoir un médecin près de temps aucun des médecins sur place ne voulait augmenter sa patientèle, donc j'ai conservé mon médecin à Paris et il y a des cinémas et il y a des supermarchés, donc ce n'est pas un désert, mais en revanche il y a un problème de désert médical. Donc il y a des régions, excusez-moi, où il y a des choses.
Non, mais d'accord.
Après 10 ans d'études, il a le droit de choisir où il va exercer.
Ah oui, d'accord.
Je vous parle des endroits où j'ai travaillé.
Donc les déserts médicaux ne sont pas tous des déserts où il n'y a rien. C'est ça que je voulais dire.
Après, c'est parce qu'il n'y a rien, mais aussi, il faut délaisser aussi.
Pas tout le temps. Je ne tire pas de conclusion. Je vous explique simplement que quand on est dans des déserts périphériques, moi j'ai travaillé en Franche-Comté et en Bourgogne, je peux vous garantir que quand vous êtes dans le désert, vous êtes dans le désert. Vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez que le cabinet de médecine générale et voilà, une boulangerie et il ne se passe rien. Mais
et du coup, on délaisse les patients?
Comment?
Du coup, on délaisse les patients, on fait quoi?
Ah non, mais la question, ce n'est pas de délaisser les patients, mais encore une fois, c'est une question démagogique. Ce n'est pas parce que les médecins ne veulent pas le faire une année de plus en internat qu'on doit sacrifier les patients. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que le problème, il est beaucoup plus large. C'est ce que vous commenciez à dire à la fin du débat avant que j'intervienne, c'est qu'il y a plusieurs choses à régler. Déjà, il faut rendre la profession beaucoup plus attractive, c'est évident.
Ça, c'est sûr.
Parce que
c'est
quoi qu'on en dise, les gens pensent toujours que les médecins sont des nantis, qui gagnent des milliers d'euros, c'est absolument faux. Et d'autre part, il faut changer toute la problématique de l'internat, puisque l'internat, quoi qu'on en dise, même si on a un tuteur ou quoi machin, on se retrouve très souvent dépourvu, seul face aux patients, qui sont très demandeurs et c'est normal, et on n'a pas souvent beaucoup de solutions à leur proposer. Et encore plus dans des déserts où on risque d'avoir une difficulté d'accès.
Oui, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui souhaitent travailler, je veux dire, avec des gens à côté, c'est-à-dire aujourd'hui dans des cabinets où tu peux avoir d'autres médecins, etc., et pas être livré à toi-même au bout de 9 ans d'études. On te dit, tiens, bah, t'es médecin tout seul à la campagne et il n'y a pas un médecin à la ronde. Évidemment, on peut comprendre que ce soit assez compliqué. Et effectivement, si t'as pas de structure, il y a de plus en plus de villes qui aujourd'hui ont des structures avec plusieurs médecins, etc., et c'est quand même plus confort, je veux dire, même en termes de sécurité pour les étudiants, puis tu peux demander conseil, etc., c'est quand même plus simple en tout cas. Merci beaucoup Jeff pour votre appel. Pas facile de se faire un avis sur cette question. En tout cas, on vous a posé cette question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Obliger les étudiants en médecine à exercer un an de plus dans les déserts médicaux, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Thibault?
Oui, pour 69% d'entre vous, vous êtes 31, pensez que non.
Ma mère m'a appelé, elle trouve que c'est une très mauvaise idée. Mais elle est médecin, donc ça doit être...
Oui, c'est les médecins qui sont contre.
Allez, dans un instant, on aura Anthony Morel. Alors là, rien à voir. Il nous parlera de fenêtres révolutionnaires. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 51, vous êtes sur RMC, RMC Story, et c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Anthony, on va parler de fenêtres révolutionnaires, des super fenêtres.
Ouais, exactement. Vous oubliez le double vitrage, le triple vitrage. Non, on va aller beaucoup plus loin que ça.
D'en
on va... Ah bah oui, bah alors oubliez. Ça va, on va aller. Super. Non, il va falloir réinvestir parce que ça coûte. C'est pas donné en plus. Ce dont je vais vous parler.
Avant.
Du vitrage dynamique. Ouais, on parle de smart glass aussi, de vitres intelligentes, c'est-à-dire en gros des vitres et des fenêtres bourrées d'électronique qui vont par exemple être capables de s'adapter en temps réel aux conditions météo pour nous rafraîchir quand il fait chaud ou pour nous réchauffer quand il fait froid. Alors, c'est une entreprise américaine qui s'appelle The View qui a mis ça au point. Donc en gros, c'est une vitre dont on va pouvoir, depuis une application sur son smartphone, faire varier l'opacité et la teinte. Par exemple, quand il fait très très chaud, vous avez l'effet bocal parce que vous avez une grande baie vitrée, elle passe en mode un petit peu plus teintée et du coup, il y a beaucoup moins de rayonnement solaire à l'intérieur. Et ça, bah, évidemment, vous allez consommer beaucoup moins de clim, par exemple l'été. Et à l'inverse, l'hiver, vous mettez une teinte la plus claire possible pour faire entrer la lumière. Alors on peut même, petite cerise sur le gâteau si on peut dire, ajouter des effets chauffants, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la vitre on va faire passer un fin courant électrique et ça va supprimer la condensation, le gel, la neige, l'effet vitre froid aussi quand vous approchez d'une vitre l'hiver qui fait très... Mais je sais bien, alors c'est pas donné, voilà mais pour l'instant, si vous voulez, c'est plutôt des promoteurs immobiliers qui installent ça dans des nouveaux immeubles, des bâtiments.
Ah, mais ça existe déjà?
Oui, ça existe, je vous dis, l'entreprise qui fait ça. Alors il y a une entreprise américaine qui s'appelle The View et une entreprise française qui fait à peu près la même chose qui s'appelle Vitrum Glass. Vous pouvez regarder sur leur site internet, VITRUM, ça s'appelle comme ça.
C'est combien?
Alors, les prix, moi, que j'ai observé sur internet, c'était autour de, c'est entre 600 et 1000 euros le mètre carré. Donc, c'est cher pour de la vitrage.
Une fenêtre, c'est au moins 2 mètres.
Ben, ça fait des bons prix, effectivement. Mais c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, c'est surtout, vous voyez, des entreprises qui veulent avoir, par exemple, des bâtiments.
Il y en aura, moins ça sera cher.
Ce qu'on appelle des bâtiments à énergie positive. Et oui, exactement, comme le fait très justement remarquer Thierry, c'est comme toujours en matière de technologie. Voilà, on va lancer un crowdfunding. Non, mais évidemment, au début, la technologie, ça coûte toujours très, très cher. Après, si ces technologies sont amenées à se développer, eh bien, les prix se démocratiseront aussi. Mais l'innovation, je trouve, est assez intéressante parce que ça permet de faire baisser la facture d'électricité, à tel point d'ailleurs qu'aux États-Unis, ils ont intégré ça dans leur plan anti-inflation, c'est-à-dire que ces vitrages dynamiques, si vous les achetez, vous avez une énorme déduction d'impôts, ce dont pourrait s'inspirer par exemple la France, pourquoi pas.
Est-ce qu'on va arriver, Anthony, aux fenêtres panneaux solaires? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le soleil tape contre les vitres.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer cette énergie?
On pourrait l'exploiter. C'est exactement le principe de ce qu'on pourrait appeler la vitre photovoltaïque, de la même manière qu'on a des panneaux photovoltaïques sur le toit. Et on est capable aujourd'hui, on a la possibilité de faire des cellules photovoltaïques complètement transparentes. Donc on peut intégrer carrément dans une fenêtre, dans une baie vitrée. Ça, c'est en cours de développement, mais vous imaginez le potentiel sur des grands immeubles de bureaux, des buildings, des gratte-ciel ou même une maison avec des grandes baies vitrées, eh bien on peut récupérer cette énergie. Alors, je vais pas vous mentir, le rendement énergétique aujourd'hui, il est pas incroyable. On va pas remplacer les centrales nucléaires avec ça, on est d'accord. Non, mais c'est ça, on est dans cette tendance. Je vous parle souvent de ce mot, l'autoconsommation, c'est-à-dire le fait que les bâtiments de plus en plus vont produire une partie de l'énergie qu'ils consomment. En ce moment, je veux dire, on peut pas faire les difficiles, tout est bon à prendre. Donc pourquoi pas les vitres photovoltaïques si on peut les développer assez rapidement.
Alors, il y a un autre souci avec les fenêtres, souvent c'est le bruit. Certaines fenêtres laissent passer le bruit. Est-ce qu'on va avoir des fenêtres anti-bruit bientôt?
Alors, des fenêtres anti-bruit, même quand vous les laissez
ouverte. C'est un truc de fou.
Mais non.
Mais oui, parce qu'on a déjà le double, triple vitrage, c'est assez efficace, on va dire comme ça. Et là, on a, alors c'est une entreprise française qui travaille avec le CNRS sur ce sujet-là, des vitres qui s'inspirent en fait des, vous savez, des casques à annulation de bruit active qui suppriment tous les bruits. Et en fait, le principe de ces casques, c'est qu'ils ont des petits capteurs et ils ont des haut-parleurs. En fait, ils vont créer une onde sonore inverse à celle du son qui passe dans la rue devant vous, par exemple. Et donc, ça va annuler le son, entre guillemets. Et ben là, c'est exactement la même chose. On a ces haut-parleurs qui sont placés directement dans le cadre de la vitre. Et en fait, quand vous la laissez ouverte, eh bien, ça va contrer le son de la voiture qui est en train de passer, par exemple. Ça le supprime pas complètement, mais ça l'atténue très, très grandement. Et ça, bah, c'est une petite révolution, évidemment, pour te, voilà, on peut vivre les fenêtres ouvertes sans être embêté par les bruits de la rue, ce qui est quand même pas mal. Ça, c'est en cours de développement. C'est pas encore sorti.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, dans Estelle Midi, à 12h50, on n'arrête pas le progrès. Dans un instant, on reviendra sur l'affaire Julien Bayou. Coup de gueule, tiens, d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, ce matin. Les hommes politiques doivent-ils être exemplaires dans leur vie privée? C'est la question qu'on vous posera dans un instant, juste après cette courte pause. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.